Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 18 février 2012. Nos programmes pour cet après-midi jusqu'à à 13h30 du sport en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec John Not Dead. Et à 17h, FMR c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la notice EKA que vous attendez tous.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Daskrich et la participation exceptionnelle de JB.
Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio FMR 89.1 MHz et comme tous les samedis, c'est supplément week-end. Bonjour Thomas.
Et salut du sport. Comment ça va?
Ah, ça va bien. Ça n'a pas l'air d'être le cas de notre cher ami Daskrich.
Ah oui, je crois que là, il est 36e degré en dessous, sous la couette, avec du grog. Mais on n'y perd pas au change puisque nous attendons rien moins que JB qui va venir vous seconder dans quelques minutes.
Et voilà, pour vous qui n'avez pas trop l'habitude de supplément week-end, qui vous demandez qui est ce fameux JB qui fait des participations spéciales mais qui n'est jamais là, c'est l'occasion aujourd'hui.
C'est pas une légende urbaine, il existe.
Il existe vraiment. Alors, on attaque dans le vif du sujet avec un petit peu de BD, non?
On va commencer avec un petit Spirou, là, tiens, en kiosque. Le numéro 3850, c'est le numéro de janvier 2012, le 25 janvier. Et pourquoi on en parle? Puisque c'est un spécial Angoulême. Alors, ce spécial Angoulême, il s'agit de... à l'origine, c'est Lewis Trondheim qui a convoqué ses amis auteurs de BD pour le collectif Mastodonte. Et ils ont fait des petits sketchs sur des moitiés de planches. C'est un cadavre esquisse, c'est-à-dire que un continue l'histoire avec des gags et l'autre continue. Et donc ça se passe pendant le festival d'Angoulême. Alors ce sont des sketchs des gags très rigolos pour celui qui ne connaît pas Angoulême, mais encore évidemment plus rigolo si vous connaissez le festival, c'est-à-dire qu'il y a plein d'allusions.
Ouais, il y a des private jokes à tous les coups, quoi.
Bien sûr, il y a des private jokes, des allusions très directes au fameux Hôtel Mercure qui accueille tous les soirs du festival les auteurs de BD, où c'est le rendez-vous des professionnels de la profession, que ce soit les éditeurs, les fans, les auteurs, les journalistes. Et donc là, évidemment, ils reviennent aussi sur le fait que l'Hôtel Mercure a complètement fait un ravalement de façade sur l'accueil, et puis c'est plus du tout le lieu de classique des autres années. Il y a aussi des allusions à peine voilées au galeriste Daniel Magen, puisque là il s'appelle Bragen, et donc c'est un envoyé du diable qui essaie de corrompre les faibles auteurs pour leur acheter des planches pour les revendre dans sa galerie où il va toucher un pourcentage énorme. Donc il y a plein de gags là-dessus, sur le côté diabolique du gars. Il y a Trondheim qui se fait avoir après avoir essayé de sauver un confrère. Il y a Thébo, il y a Stan Evin, il y a Bastien Vivès, Trondheim lui-même qui se met en scène dans ce festival angoumoisin. Alors c'est très très drôle puisqu'il y a Thébo aussi, donc chacun doit faire la promo de ses albums. Alors il y en a un qui est spécialiste dans l'humour caca, l'autre qui va enfiler un costume en latex d'un anus géant, donc c'est marrant puisque l'auteur qui est déguisé en caca va dormir à la Belle Étoile puisqu'ils ont pas l'éditeur n'a pas le budget suffisant pour l'accueillir dans un hôtel. Donc il y a le gars qui est déguisé en anus et le gars qui est déguisé en caca qui vont dormir à côté dans la rue. Et il y a plein de gags très pipi caca qui sont liés à ça. J'étais mort de rire quand j'ai lu ça, mais c'est vrai que c'est mieux si on connaît un petit peu les à côté du festival. C'est très très rigolo. Donc c'est le numéro 3850 en kiosque du Spirou. C'était le 25 janvier 2012. Il a de fortes chances qu'il ne soit plus disponible en kiosque, mais vous pouvez, je pense, le commander par internet.
Alors ça, c'est quand même une idée qui avait déjà été reprise, et ça je le sais grâce au bouquin de Francis Groux, parce que il y avait dans le bouquin de Francis Grou à un moment, hein, tu sais qu'il y avait, il y a donc ces fameuses illustrations dédicacées à Francis Grou de la part de tous les auteurs qui ont fréquenté Angoulême depuis le départ, et il y avait donc, il y a un moment, il y a une espèce de cadavre écrit aussi, hein, c'est un truc qui avait été réalisé je crois au début des années 80 par l'ensemble des dessinateurs qui étaient présents à Angoulême. Donc le cadavre exquis, bon bah voilà. Ça a déjà été fait de toute façon, hein. Bon bah ok, hein, on sait d'où ça vient, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de censure à ce niveau-là.
Tiens, JB qui fait son entrée tonitruante dans le studio, c'est dommage puisque... Donc ce... il faut savoir, amis auditeurs, que ce Spirou, c'est JB qui me l'avait prêté. Donc nous venons d'expédier le Spirou. Installe-toi, prends le temps. Alors maintenant on va enchaîner avec de la BD post-apo. C'est plus du tout le même genre, ça s'appelle La Belle Mort. Et c'est signé, scénarisé et dessiné par Mathieu Bablé dans le label 619 d'Ankama. Alors ça c'est la bonne BD post-apo comme il se doit. Donc ça commence vraiment comme là je suis une légende, hein, sauf que là ce sont, au lieu d'être seuls, ils sont trois. Donc Wayne, Jeremiah et Soham, qui sont les trois uniques survivants d'un cataclysme qui a dévasté la Terre. Alors ils fuient des insectoïdes et occupent leur journée comme ils peuvent en quête de nourriture et surtout d'un but pour leur existence sans réel avenir, jusqu'au jour où la mystérieuse Robin fait son apparition. C'est une brunette très très mystérieuse. Alors il faut savoir que le dessinateur, c'est un jeune auteur qui a 25 ans. Et je sais que JB l'a déjà feuilleté, mais je vais en profiter pour déscotcher du sport de l'écran pour qu'il regarde un petit peu la bande dessinée.
Et... Ah ben là déjà, dès que je vois le truc d'édition et tout quoi, je me dis bon ok, voilà. Ça va le faire. Hein.
Voilà, et il faut savoir que c'est une BD post-apo qui se déroule en ville. Et ce jeune auteur, il a truffé ses cases. Il n'y a pas un seul arrière-plan qui ne soit pas couvert de buildings avec des perspectives de fou, des lignes de fuite de partout. Et c'est pas du building esquissé, c'est du building avec le trait qui est costaud, les détails qui sont là, les tuyaux, les parpaings complètement détruits, les vitres qui sont toutes brisées. Ça va. Moi, ça m'a rappelé le travail de Blame. Sur le manga Blame, ouais, au niveau, je vais dire, au niveau pas noir et blanc et histoire. D'ailleurs, je crois que ton micro est fermé d'ailleurs. Voilà,
je l'ai trouvé.
Ah, ça marche.
Merci. Non, c'est moi le maître des micros.
Oh,
il y avait le maître des clés, le maître des micros ici présent. Donc, toi qui es fan du manga Blame.
Oui, c'est excellent. Et effectivement, ça peut avoir des rapports puisque Blame est un gros travail architectural. D'ailleurs, c'est essentiellement l'intérêt de Blame.
Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'on retrouve aussi cet aspect futuriste et post-apo. Alors moins futuriste que Blame, bien sûr, puisqu'il y avait des lasers, des mutants et tout. Mm-hmm. Là, il y a un peu des insectoïdes, mais surtout ce travail vraiment sur l'architecture où le gars, c'est un psychopathe de la ligne de fuite, de la perspective, quoi. Et les personnages, contrairement à beaucoup de BD dans ce genre-là, où les décors sont très très travaillés, mais les personnages sont juste des faire-valoir. Ici, c'est pas du tout le cas, puisque le caractère design n'est pas en reste. Il a quand même une sacrée patte, ce type. Il fait des personnages au trait très anguleux, avec une vraie personnalité, et chacun a sa c'est le cas de le dire, a sa personnalité, a un but précis dans l'histoire. Et c'est marrant parce que c'est une BD qui est en deux parties, puisque la première partie, tu sens que c'est plutôt du post-apo à la Je suis une légende, c'est-à-dire ils vont essayer de survivre avec tout ce que ça comporte d'interrogations. C'est vraiment la merde, on est les derniers humains, etc. Il y a la solitude. Et puis quand apparaît ce personnage féminin, eh ben ça fout la merde, pas forcément. Eh ben forcément, c'est les trois gars. Il y a la nana qui arrive, évidemment, on sait tous, les nanas, ça fout la merde. Donc là, c'est pareil, c'est dans du post-apo, c'est pareil. Et là, la BD vire vraiment à un autre, dans une autre thématique beaucoup plus existentialiste. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous dans cet univers? Pourquoi eux ont survécu et pas d'autres? Donc il y a vraiment un déterminisme qui est assez présent dans l'histoire, et le scénario vire vers autre chose. C'est une BD qui est très dense, avec beaucoup beaucoup de pages. Comme c'est le label 619, eh ben c'est un objet qui a été soigné. Au niveau
tu peux nous rappeler ce qui est sorti chez 619, hein,
c'est la base 619, donc c'est Freak Squill, c'est toutes les BD de Run, donc la saga Mutafukaze, c'est Doggy Bags, c'est The Grocery,
The Grocery aussi, ouais.
Voilà. Donc voilà, on sait que ce sont des beaux objets et donc ça c'est un one shot. Donc vous pouvez sans pour autant vous dire oh là, il va falloir que j'en achète 4 à la suite. Non, c'est un one shot. Donc si vous aimez la post-apo, si vous aimez la SF et puis plutôt les univers à la Otomo avec beaucoup de destruction et beaucoup de bâtiments détruits, etc. C'est vraiment un truc qui fait pour vous. Et puis au niveau graphisme, ça tabasse, il faut le dire. D'ailleurs, c'est en béton armé. Voilà, donc on rappelle la référence, Mathieu Bablé, chez Ankama, ça s'appelle La Belle Mort. C'est un one shot dans le label 619.
Label très apprécié par toute l'équipe ici oui. présente.
Ah ouais, ouais, là on est unanime à ce sujet. Ouais. Radio FMR 89.1 MHz avec le petit extrait musical qu'on a écouté là qui est un morceau qui s'appelle Parade et c'est extrait d'un disque qui vient de sortir hein, qu'on a reçu hier ou avant-hier et c'est le nouveau disque de R.
Ah ouais, du sirupeux de l'aérien.
Ouais, mais c'est très différent par rapport à ce qu'ils font d'habitude.
Alors, c'est très différent.
Ça, ce qu'on entend derrière, c'est R aussi.
Ouais, c'est le disque qui tourne là. Hein. Là, je fais tourner le disque depuis le départ. Hein. Donc,
pas mal, hein.
Les fonds musicaux et tout, hein, on va le garder jusqu'à la fin, de toute
D'accord.
façon. Alors, c'est un petit peu spécial. Pourquoi ? Parce que c'est une musique de film, en fait. Et c'est la musique d'un des plus grands blockbusters du cinéma. Historiquement, oui. Un des premiers blockbusters du cinéma, historiquement parlant, à oui. savoir Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès.
Ouais.
Alors, il faut savoir que ce film, il reste que deux copies à peu près acceptables et tout qui sont diffusées dans les cinémathèques et qu'on peut se revoir de temps en temps, même à la télé. Hein, il m'est déjà arrivé de voir une fois une programmation du Voyage dans la Lune de Méliès. Mais par contre, ce sont des copies qui étaient en état relativement assez pitoyable et qui, en plus, eh bien, il manque des petites parties par rapport à l'œuvre originale de Georges Méliès. Et il y a à peu près une dizaine d'années, ou un peu plus d'une dizaine d'années, hein, que des fous furieux de cinéma, des restaurateurs se sont dit non, on va essayer de refaire une copie neuve du film de Méliès. Et donc, ils sont allés faire le tour de toutes les cinémathèques dans le monde entier. voir s'il restait pas des petits bouts, des morceaux de péloche, des trucs comme ça et tout, histoire de pouvoir retravailler sur la pellicule. Alors à l'époque, les pellicules étaient très très fragiles, se détruisaient, étaient inflammables comme c'est pas permis, donc très dangereuses. Là, ça permettait justement de remettre un petit peu les choses à plat. Il aura fallu 10 ans, il aura fallu un pognon absolument monstrueux, je crois, ça se chiffre en dizaines de millions d'euros, pour pouvoir refaire une copie neuve, donc, de ce voyage dans la Lune.
Attends, tout ça
et
pour
une
un
copie,
film,
et une copie intégrale. C'est-à-dire, on a un film carrément intégral. Et, l'occasion était, bien entendu, excellente pour les musiciens de R. Bon, on sait maintenant que c'est, on va pas dire que c'est presque tombé dans le domaine public, mais pratiquement, hein, de plus en plus de, films muets sont, illustrés musicalement par des orchestres, par des pianistes, comme ça se faisait dans le temps, dans le, lors du,
et qui sont des représentations uniques.
Voilà. Alors là, par contre, ce sont des one shot. Il y a des groupes, en France qui font des tournées, hein, avec justement une musique de film et tout. Quoi, Cold Silver, c'est un groupe alsacien qui fait ça avec Alien. Non, pas avec Alien, avec l'autre, avec le film avec Harrison Ford là.
Blade Runner,
voilà quoi. Qui font ça avec Blade Runner,
ah ouais,
quoi. Donc
ça peut donner ça, je pense.
Ouais, ça peut donner quoi. Il y a pas de problème. Et donc pour en revenir à ce voyage dans la Lune, donc ce voyage dans la Lune nouvelle génération, voyage dans la Lune 2.0, on pourrait dire, hein, pratiquement.
2.0.
Eh bien, il devrait sortir très très prochainement, donc dans les salles carrément quoi. Avec donc cette musique de R.
T'avais eu Futuropolis qui avait été retravaillé avec du Queen il y a, on va dire, à 15-20 ans.
Non, Metropolis.
Metropolis. Futuropolis, c'est les éditeurs.
Oui, c'est les éditeurs.
Ouais, retravaillé, colorisé, bon.
Ouais. Mais c'était super kitsch.
Ouais, c'était kitschos, quoi, on va dire. Hein, par rapport à la version originale noir et blanc, hein, qui.
Ouais, bon, mais c'est du Queen.
Tu vois ce que,
justement, c'est du Queen, donc
ouais,
c'est
ouais.
Kitsch.
Ouais, ouais, ouais.
Ah ouais, c'est mon amour pour kitsch.
Voilà.
Pardon.
Voilà, donc pour la musique d'illustration de cette émission, passons maintenant aux comics avec tout d'abord Spider-Man le numéro 145 et c'est pas la couverture habituelle, hein, c'est la couverture qui maintenant on l'a un petit peu partout sur toutes les déclinaisons des Marvel en kiosque, tu vois là le
Fear Itself,
le fond, et c'est Fear Itself. En fait, c'est le nouveau méga world crossover, crossover machin truc de Marvel. Fear Itself. Alors, à quoi c'est dû? Je vais vous lire tout simplement le résumé. Hein, pas con le mec, quoi. Alors, au départ, le serpent, qui est un antique dieu d'Asgard, a été réveillé d'un sommeil millénaire par Sin, qui est la fille démente de Crâne Rouge. La divinité a alors fait tomber du ciel 6 marteaux magiques qui ont transformé autant de surhumains en dignes des créatures toutes puissantes à son service. Et comme si cela ne suffisait pas, le monde entier est en train de céder à la peur. Oh, on en était resté à Spider-Man qui protège Jonah Jameson, parce que bon, ils sont plus ou moins de la même famille maintenant,
c'est
ça,
vrai,
on
c'est
va
vrai.
Revenir. Ok. Et dans le dernier Spider-Man, le 144, il y a quand même un événement vachement marquant, c'est que Jonah Jameson, comme il est maire de New York, c'est sûr, c'est la cible de pas mal de fous furieux, hein, c'est clair. Et la nouvelle némésis de Spider-Man, qui s'appelle l'anti-araignée Alan Smith, a décidé de s'attaquer à Spider-Man par tous les moyens. Et comme Peter Parker est très souvent avec sa belle famille, on va dire, il se trouve que dans le dernier Spider-Man, Marla Jameson, la femme de Jonah Jameson, pour protéger son mari, et avec Spider-Man bien sûr, se fait dégommer, meurt. Ok. Donc ça plombe un peu l'ambiance, d'accord, on va dire, ok, bon bah c'est plus sympa et tout, c'est plus tellement le big time, hein, mais comme on sait que Spider-Man de toute façon fait partie de l'univers Marvel, on lui fait également une petite place dans laquelle il rentre dans ce grand univers qu'est le Fear Itself. Ok, mais ça va pas être le truc principal du côté de Spider-Man. Fear Itself qu'on retrouve également bien sûr chez les Vengeurs. Alors les Vengeurs, c'est normal, c'est leur année. Le Joss Whedon va bientôt sortir cette année.
Je vois pas comment on pourrait y échapper là.
Alors comment on pourrait y échapper? Alors du côté de Marvel, on sait que Panini Comics, il y a une redistribution des cartes au niveau des différents titres. Spider-Man bien sûr est conservé. C'est quand même le titre phare de Marvel. Ensuite on a les X-Men, ensuite on a Wolverine, et ensuite on a toute cette espèce de, pas de fatras, mais enfin de
gros bordel,
de mélange dans laquelle on peut pratiquement mettre tout ce qu'on veut. Bon, le choix éditorial est quand même relativement bien fait par les responsables français, et ce qui fait qu'on a Marvel Top, on a Marvel Classique, pourront relire des vieilles BD des années 80, des années 70. On a Marvel Extra, on a Marvel Heroes. Et tout ça, ça sert justement à pouvoir caser des super-héros qui au départ à un moment ont eu le vent en poupe, mais au niveau du lectorat les ventes baissent, donc on en fait plus un titre et tout. On a vu ça avec Iron Man il n'y a pas si longtemps, Iron Man qui avait son titre, son machin et tout, aux États-Unis du moins, pas en France, mais la vague du film, du deuxième film est passée, ça change, Monsieur Iron Man qui se retrouve uniquement dans les trucs des Vengeurs. Et justement, si on prend les Vengeurs, ça sert justement à pouvoir développer des histoires du groupe et des histoires personnelles de gens qui font partie du groupe. Et donc, dans le premier Vengeur, qui n'est pas celui-là, ça c'est un extra, c'est un hors-série, et celui qui est sorti début du mois de janvier, c'est le numéro 1, donc ça vaut le coup, si vous voulez commencer justement, c'est l'occasion ou jamais, parce que il y a une refonte un petit peu de l'univers Marvel, on a décidé de virer plein de choses qui étaient un peu emmerdantes et qui risquaient justement de déstabiliser le nouveau lecteur qui arrive et tout, qui se dit ouais, c'est trop compliqué, je comprends rien, il y a des références à machin, un truc à bidule et tout, quoi, c'est pas la peine, je suis perdu. Je largue. Là, c'est l'occasion. C'est en ce moment. Là, c'est depuis le début de l'année.
Ouais, y a pratiquement sur tous les titres. Sûrement, il n'y a pas les Skrulls.
Non, pas encore. ils reviendront, à mon avis. Il n'y a pas de problème.
Ceux qui sont déguisés, ceux qui ne sont pas déguisés, c'est ça ?
Non, les Skrulls, c'est une race d'extraterrestres, mais c'est un running gag dans l'émission où il y a du sport. Il ratait pas de parler des Skrulls à un moment donné. Donc.
Voilà. Okay. Donc, concernant le Avenger Extra Fear Itself, justement, alors ça c'est le numéro hors série, si vous voulez, justement, il est consacré à un personnage qui fait partie des Vengeurs, et ce personnage c'est Iron Man. Et c'est même pas Iron Man, parce que le gros de l'histoire, en fait, est plus consacré à son faire-valoir, on va dire, au mec qui l'a sauvé, à Rhodey.
Ah oui,
et
c'est
en fait,
War Machine.
Si le titre c'est Iron Man 2-0, c'est tout simplement parce que le gouvernement américain se rend compte que Stark est des fois de temps en temps fragile, n'en fait qu'à sa tête, donc n'est pas fiable à 100% pour pouvoir fournir le gouvernement américain en matériel militaire, en nouvelles armes de destruction et tout ça, nouvelles armes de défense et tout ça. Et donc de leur côté, ils vont armer un autre Iron Man. Et cet autre Iron Man, c'est qui ? C'est tout simplement James Rhodes, le Black, pilote d'hélicoptère, qui a sauvé Iron Man, Stark, lors de sa première aventure. Et donc, les deux vont se retrouver sur le champ de l'action, à savoir, il y a un super vilain et tout, donc il faut le dégommer, il fait chier et tout, quoi. Et les deux se retrouvent là, quoi. Bon, je vous laisse la surprise, parce que c'est assez rigolo. Ce sont deux amis qui au départ dans la série n'ont jamais connu vraiment de gros problèmes d'amitié entre eux. Il n'y a jamais eu vraiment de grosses cassures, si peut-être au moment où Rhodey s'est glissé dans la War Machine, c'est-à-dire l'espèce de Iron Man, mais version plus militaire, on va dire, et version plus destructrice. À part ça, ils sont toujours restés plus ou moins potes. Et il y a même eu le moment où c'est Rhodey qui remplaçait Stark quand Stark était vraiment bourré comme une vache et qu'il c'est pouvait vrai. Même pas rentrer dans l'armure de Iron Man.
Et c'était déjà au cœur du deuxième film aussi, puisqu'il y avait la scène finale où il se faisait un gros gunfight avec les deux qui étaient dos à dos contre l'armée des robots qui devaient faire un assaut sur eux.
Alors, tu le vois dans le film effectivement, mais ça c'est des scènes qu'on retrouvait dans la BD il y a très longtemps.
Oui. Non, mais je dis le film pour que ça parle un peu plus
au lecteur.
Bon, voilà, donc Avenger Extra Fear Itself, ça c'est le numéro 1, c'est un hors-série, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez, mais c'est quand même mieux si vous arrivez à vous procurer le numéro 1 des Vengeurs, donc, mais qui est sorti je crois le mois dernier, donc essayez de le retrouver, ou peut-être au début du mois quand même, quoi. Donc pour bien vous mettre dans la tête quelle est la nouvelle équipe des Vengeurs et qui forcément va un peu ressembler à celle qu'on va retrouver dans le film, ça apparaît comme étant assez évident, mais pas que, parce que on sait que dans les comics, on peut aller nettement plus loin. Et il y a également donc le nouveau Spider-Man numéro 145 qui est également dans la mouvance de ce nouvel univers Marvel Fear Itself.
Il faut savoir que Spider-Man, il y a le nouveau film aussi, le reboot, qui va sortir je crois cette année avec, j'ai oublié le nom de l'acteur et le nom du réalisateur d'ailleurs, Ouais, voilà, c'est super. Donc voilà, Team Atom, c'est dédicace. Non, il y a voilà Spider-Man qui revient avec. Donc voilà, c'est un reboot. Je vois pas trop l'intérêt de faire une relance de la franchise si tôt après Sam Raimi. Il aurait mieux fallu laisser passer quelques années. Bon voilà. En tout cas, juste pour les puristes, Spider-Man cette fois-ci ne lance plus des toiles d'araignées mutantes qui sortent directement de ses bras, mais c'est plutôt des ce qu'on avait dans la version du comics. Ce sont des appareils qu'il a bricolés.
Voilà, c'est ça. Voilà, ouais.
Plutôt scientifique de talent.
Oui, parce que c'est la première passion de Peter Parker quand il est jeune. Avant de se faire piquer par l'araignée, bon, on se rappelle qu'il se fait piquer par une araignée, c'est où ?
Dans un labo.
Dans un labo.
Oui,
parce que bon, bah, il est scientifique, il s'intéresse à ce genre de truc, et c'est lors de la visite d'un labo qu'il se fait piquer par cette araignée atomique. Bon, on va passer au lourd à présent.
Au lourd à tous les sens du terme.
Ouais. Oui, parce qu'en plus, il est un peu plus lourd.
La pagination est plus importante.
La pagination est plus importante. Il coûte un peu plus cher. Ouais. Bon, bah pas beaucoup plus cher, hein, mais bon, c'est vrai qu'il est plus épais. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est The Boys.
Ouais.
C'est bien ça.
Le numéro 13. Toujours par Garth Ennis, bien sûr, et dessiné par John McCree. John McCree qu'on avait déjà découvert dans Hérogasme.
Hein, donc, oula. D'accord.
Hein, ok, tu vois un petit peu le style, quoi. Bon, alors, bienvenue chez le petit. C'est le titre. C'est le titre.
Évidemment, un titre qui n'a rien à voir avec la VO, je pense.
Ben, je sais même pas, figure-toi, quoi.
Parce que bon, vu que c'est un jeu de mots sur le film de Danny Boone.
Non, ça a rien à voir parce que bon, bah, le titre original, c'est Highland Laddie.
Ouais,
Highland Laddie, qui explique vachement mieux ce qui va se passer en fait, hein, parce que bienvenue chez le petit, tu comprends rien. Bon, le petit, c'est bien entendu le petit Yugi. Alors, la première chose qu'on remarque, hein, bon, pour ceux qui ont déjà lu les autres, eh bien, c'est que maintenant, petit Yugi ne ressemble plus à Simon Pegg.
C'est pas vrai.
Sous la plume de.
Oh, il nous prive du plaisir.
Alors, si tu veux, t'as la couverture de Darick Robertson. Donc là, on reconnaît bien Simon Pegg,
ouais,
hein, ok,
ouais.
Hein, qui est là. Mais quand on ouvre et puis quand on regarde le petit Yugi dans l'histoire, ben c'est plus tellement ça.
Ah ouais.
Ah non, mais voilà,
c'est plus tellement ça.
Ouais.
C'est pas gênant. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin du numéro 12
qui était un numéro extrêmement bavard.
On
se doutait que ça allait préparer la montée en puissance pour que la sauce éclate dans le 13.
Si tu veux, c'est peut-être la suite. On va dire c'est la suite. Bon bah logique, hein, le numéro 12, numéro 13, c'est la suite. Mais c'est la suite de cette histoire entre petit Yugi et Stella.
Ouais.
Mais j'en dévoilerai pas plus parce que bon bah c'est quand même une petite surprise à l'intérieur. Alors petit Yugi à la fin de cette histoire, il casse avec Stella parce que bon bah ils sont mentis tous les deux.
J'adore du sport. C'est bon, je vous dis rien, mais il casse quand même à la fin.
Non, mais à la fin du précédent.
Voilà, à la fin du précédent.
Il casse, il l'envoie chier, tout quoi. Et donc bon bah il a plus tellement la tête à faire partie de la bande et il décide de se ressourcer et de rentrer chez lui en Écosse. Et donc on rentre en Écosse, il va voir papa, maman, il rentre chez papa et maman, tout simplement, et il va retrouver ses potes, ses laddies, les Highland Laddies,
d'accord,
ses potes d'enfance, d'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'il est plus épais, parce que c'est vachement plus introspectif. On rentre vachement plus dans le trip de petit Yugi avec ses pensées qui font flashback par rapport aux histoires qui sont déroulées depuis qu'il est arrivé à New York, et depuis que sa femme, sa copine s'est fait démonter par D-Train. Enfin bon, plein de trucs comme ça. Mais par contre, c'est assez rigolo quand même parce que bon bah bien sûr, bon bah Stella va revenir. Que va-t-il se passer? Bah, il va s'en passer, bah, pas mal. Au niveau de l'action, c'est pas top, hein, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de fight de super-héros et tout, quoi. D'ailleurs, il n'y a même pas de super-héros dedans. Faut se contenter des flashbacks que Yugi a pour savoir qu'on est encore dans ce monde-là. Et les différents commentaires qu'ont justement petit Yugi, Stella par rapport à. Et là, on en apprend un petit peu plus aussi par rapport aux autres mecs de la bande, mais simplement parce que ce sont des flashbacks et que dans ces flashbacks il y a des trucs que petit Yugi ne devrait pas savoir. Bah, c'est assez rigolo comme truc, quoi. Mais bon, ça fonctionne quand même. C'est ça qui est assez rigolo, quoi. Bref, dans la droite lignée des précédents, il n'y a pas de problème. C'est The Boys. Alors, il met la pédale douce, on va dire, hein, depuis deux numéros Garth Ennis, quoi, sur la partie, on va dire, action, fight, tout ça. mais c'est pas dommage.
Tu sais très bien que c'est pour mieux revenir par la suite.
Ouais, 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 mais c'est pas dommage parce que bon, ben, ça fait plaisir. Puis il y a carrément des trucs. À un moment, il rencontre un type sur le, dans la lande qui est au bord de la mer et puis qui peint l'océan, des trucs comme ça et tout. Il va devenir pote avec ce mec, ils vont avoir des discussions vachement philosophiques, enfin des trucs pas possibles et tout. Et le problème, c'est que jusqu'à la fin, on sait pas qui c'est ce mec-là, quoi. Alors que ce mec-là a quand même l'air d'être soit un espion venu voir ce qu'il foutait là, soit un type, on va dire, peut-être l'incarnation de Dieu sur Terre qui est venu lui filer des conseils, un petit peu. Enfin, on peut imaginer n'importe quoi sur ce type qui est vachement classos et tout, qui lui file à bouffer. Tiens, allez, ma femme m'a filé à bouffer pour deux, allez, tu manges avec moi et tout. Il passe des après-midi comme ça. Petit Yugi, il l'emmène sur des endroits. Ah ouais, ouais, mais là, j'ai un spot où on peut voir des phoques, enfin des trucs comme ça et tout, quoi. Mais ils ont des discussions qui sont vachement philosophiques, ça c'est assez rigolo quand même, quoi. Bon, j'arrête là avec The Boys, donc c'est le numéro 13. Bienvenue chez le petit, un petit peu plus cher que les autres, mais bon, hein, je veux dire, c'est, ça reste quand même vachement abordable.
Et il y en a un qui s'empresse de le récupérer. Ouais. Hop là,
non, mais ça c'est du classique ici.
Ça c'est ma besace.
Ouais. Et la main tendue, ouais. Il est 12h31 sur la pendule de Radio FMR 89.1 MHz. Un petit peu de musique et ensuite ben on va parler ben littérature et cinéma. C'était Mama Rosine des Suisses qui sont en concert ce soir à Toulouse. Alors je me rappelle pas si c'est à la Dynamo ou si c'est au Connexion Café, mais enfin comme c'est dans le même quartier, il y a pas de problème. Hein, voilà. Si c'est l'un, si c'est pas l'un, c'est l'autre.
Si vous allez à mauvaise adresse, ouais, à pied,
à pied, il y a pas de problème. Mama Rosine donc. qu'on réécoutera bien sûr dans l'émission musicale un petit peu plus tard, hein, vers 14h15, 14h30.
Alors avant de lancer le jingle, on parlait des Suisses, tout à l'heure c'était les Écossais, maintenant on va parler des Suédois. Ouais. Quel enchaînement.
Stummstrick. Hey hey.
Ah bah ouais, mais je t'ai pas calé moi ton truc quoi.
Ah, c'est ballot,
hein. Ah bah attends, on va faire ça bien quoi.
Allez, envoie la Suède.
Ouais, vas-y, fais.
T'as pas un petit générique Ikea ou un. Oh là 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 là.
On aurait pu passer les rois de la Suède, mais.
Non. J'ai failli t'apporter du nez à personne ou du Abba, je me suis dit non, ça suffit. Hein.
Ça, c'est la loi des séries.
Ah oh, merde.
Il s'est mis son propre jingle. Les réalisateurs se suivent et se ressemblent dans cette émission, je trouve.
Mais c'est plus posé, c'est plus calme, c'est plus agréable, moi, je trouve.
Attention, il nous écoute.
Je m'en fous. De toute façon, il peut pas répondre à part nous essayer de nous rappeler. Et... Non, tu en.
Dans Gaskrich, si tu nous écoutes, appelle au 0561 580 580. Si toi aussi tu n'es pas producteur de cette émission, tu peux aussi nous appeler.
Surtout si tu n'es pas producteur.
Non, ça c'est la loi des séries.
Oh merde.
C'est le running gag des de l'ordinateur. Attention, Sport découvre la machine à jingle.
Non, mais bon, j'ai des problèmes quand il faut caler deux trucs.
Ça c'est la loi des séries.
Ah bon, bah il veut pas. Hein.
Bon,
écoute,
c'est pas grave, j'aurai pas mon jingle cinéma.
Non, tu l'auras pas.
Alors voilà, donc aujourd'hui on parle de The Girl with the Dragon Tattoo ou les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est selon la langue. Donc il s'agit de Millennium.
Devine qui
Millennium, réalisé par David Fincher avec Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff. Alors Steven Berkoff, c'est le général russe dans Rambo 2, tu sais. Dans Rambo 2, oui, quand il est avec les Viettes et qu'il a de la merde de cochon partout là. Donc ça c'est le gars qui a un bouton, donc c'est lui qui joue dedans. Robin White, qui ne s'appelle plus Robin White Penn, hein.
Depuis très longtemps.
Voilà. Joey Richardson, donc c'est celle qui joue la femme de Ryan Murphy dans Nip Tuck. Et Goran Wisnik, Goran Wisnik, qu'on retrouve aujourd'hui, qui était l'ancien pensionnaire de la série Urgence. Donc c'est lui qui, voilà, bref, qui envoie, qui est un peu le patron, le commanditaire de notre chère hackeuse dans le film. Alors le riche industriel suédois Henrik Wenger engage le journaliste Michael Blomqvist, brillant journaliste d'investigation. Alors ça tombe bien puisque Michael vient d'être très fraîchement discrédité médiatiquement pour élucider la disparition de sa nièce Harriet. Alors bienvenue.
La dispersion de la nièce de Wenger.
Voilà, pas du journaliste. Alors bienvenue, pas chez les ch'tis, mais chez les nazis, les déglingués, la famille fâchée avec ses secrets plus noirs les uns que les autres. Heureusement, Michael se trouve de l'aide, une sociopathe hackeuse de génie qui s'appelle Lisbeth Salander. Alors voilà, le pitch est placé. Millennium, donc ça a été au départ une trilogie de bouquins écrits par Stieg Larsson, qui est mort à peine après avoir présenté ses bouquins à son éditeur. Il est mort d'une crise cardiaque à peine 50 balais. Donc il est mort avant que sa série ne soit un immense carton à travers le monde. Donc Stieg Larsson. Donc c'est publié en France chez Actes Sud et donc c'est une trilogie avec donc les titres c'est donc la The Girl with the Dragon Tattoo, on a la reine dans le palais des courants d'air pour le 3 et le 2 c'est la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Oui. Donc on voit que c'est pas du bisounours.
Le premier c'est pas The Woman with Dragon Tattoo parce que ça c'est la traduction américaine du bouquin, c'est plutôt les hommes qui n'aimaient pas les femmes.
Voilà, les hommes qui n'aimaient pas les femmes.
Le sous-titre qu'on retrouve en français.
Voilà. Donc, Millennium avait déjà fait l'objet d'une adaptation par des Suédois.
Oui. Alors au départ, si je me souviens bien, c'est une série télé de 2 épisodes de 6 épisodes. Donc, comme il y a 3 bouquins, ça fait 2 épisodes par bouquin.
Donc 6.
Exactement. Et ensuite, ça a été présenté, je crois que c'était sur Arte. il y a un an et demi. Et tu as évidemment un recut au moins du du premier film qui est sorti là.
Ouais, le premier film est sorti en salle et la suite est sortie directement
en direct DVD. Ouais. Ok. Voilà, tu vois, j'avais un peu zappé cette période-là. Oui, effectivement, si je me souviens bien, c'est des recuts de la série télé pour être montée en film et qui donnent des films tout à fait corrects.
Donc après cette version suédoise, c'est David Fincher himself qui prend les rênes de cette adaptation, on va dire plus pour encore plus international, avec un casting en plus béton armé, plus connu, plus américain. Ça se passe toujours en Suède.
Ouais, surtout avec Daniel Craig. Ouais.
Voilà. Oui, pardon, oui, anglo-saxon, j'aurais dû dire. Et donc David Fincher, ben moi j'étais assez fan de ce qu'il faisait au début.
Ouais.
C'est-à-dire ses quatre premiers films, on va dire Alien 3, Seven, The Game et Fight Club. On voyait vraiment une espèce de cohérence dans son cinéma, qui était plus un cinéma centré sur le corps, sur l'identité, mais sur un cinéma très viscéral, très rentre-dedans, très punchy, où c'était l'expérimentation du rapport à la société par des notions comme l'automutilation, comme le rapport au corps par exemple. Mmh. Et que c'était très intéressant. Depuis Panic Room, qui était quand même un film mineur, plutôt un exercice de style, le cinéma de Fincher a évolué. Il a fait le polar, donc pour moi je trouve pas mal d'affinités avec ce film là avec Zodiac.
Oui,
entre Zodiac et Millennium. Ensuite il a fait l'étrange histoire de Benjamin Button, donc qui a demandé 2 ans de post-prod. Vu les effets spéciaux, c'était assez logique. En 2008, suivent donc The Social Network en 2010, qui a sur la création de Facebook, et donc tourné en 2010 Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Alors Fincher, j'ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai vu le film. Fincher, faut plus attendre le nouveau film du réalisateur de Fight Club, le nouveau film du réalisateur de Seven. Pour moi, ce metteur en scène là, et c'est pas un mal, c'est juste que moi j'étais beaucoup plus fan de ce cinéma là, c'est qu'il a disparu. Ce réalisateur, c'est normal, les gens et les réalisateurs évoluent, donc c'est normal, il faut pas attendre d'un gars qui fasse la même chose toute sa carrière. Il a commencé par des films très très viscéraux pour aller plutôt vers du film qui va s'épancher sur les méandres, sur les manipulations. Et même quand tu vas dans cette analyse là, après tu pourras argumenter JB, c'est que tu t'aperçois que cette thématique était déjà dans ses premiers films.
Oui,
aussi, avec par exemple The Game, avec Seven, même si c'est un film très hardos.
Tu parlais de manipulation, c'est voilà, tout à fait évident. Entre, par exemple, tu veux prendre Alien Cube, les rapports entre prisonniers sur cette planète. Tu prends les plus évidents, c'est Fight Club, parce que c'est que la manip tout le long du film. The Game, si c'est pas une manip, je vois pas ce que c'est. C'est quand même un film où on arrive jusqu'au bout à se régaler, même à la fin, parce que c'est quand même, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est pas un jeu? Et puis au final, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu, mais bien que tu connaisses le truc, tu dis ah ouais bof, mais non, ça reste quand même tout à fait crédible.
C'est très rare
dans ce type de film.
Oui,
c'est puis, très difficile.
Et puis c'est un film qui annonce la couleur dès le départ et tu te fais à chaque fois piéger à chaque fois que tu revois le film.
Tout à fait.
Ça c'est ici, même si c'est un film mineur, qu'il est assez sous-considéré dans la filmo de Fincher. Puis on va pas faire des tonnes sur The Game non plus, mais c'est vrai que c'est quand même un jeu. On voit que c'est un maître quand même, parce que il arrive à te dire je vais filmer une ampoule, et puis tu dis non, il y a pas filmé une ampoule, il filme une ampoule. Pour pas d'autres.
Voilà. Moi je trouve qu'il a un très bon don d'ambiance.
De compteur et d'ambiance. Et c'est quand même quelqu'un maintenant qui fait quand même des films super longs. Benjamin Button est un peu à part, mais c'est vrai que The Social Network, Zodiac ou Millennium, c'est quand même des films à tiroir, des films à enquête avec des méandres de partout qui ont a priori rien pour passionner des masses.
Détrompe-toi, moi je trouve pas.
Mais,
au contraire.
Enfin, moi Zodiac, j'avais été assez fraîchement surpris, mais c'est vrai que après relecture, après analyse, tu te dis que il poursuit maintenant une même veine, c'est-à-dire qu'il va, aussi s'attacher non seulement au méandre, mais aussi à la notion de monstruosité.
Tout à fait. Mais elle était déjà la monstruosité. Mais si tu veux, les premiers films que tu as cités, et c'est ce que tu appelles le côté punchy, effectivement, c'est du. T'as l'impression d'être sur un ring avec un boxeur et que t'en prends plein la gueule, hein, tellement c'est assez ardu et direct. Autant les autres, je trouve qu'au contraire, il arrive à se mettre un petit peu en retrait et c'est beaucoup plus fin que ses premiers films.
Oui, oui, mais c'est en ça que je dis que c'est finalement pas un mal. C'est, on voit qu'il y a une évolution vers autre, quelque chose de moins direct, mais de pas moins intéressant.
Autant c'est vrai que t'accroches moins, autant moi je suis passé à ce deuxième. Phase, si tu veux, et j'accroche vraiment. Zodiac, c'est une enquête qui a mis beaucoup de monde dessus, qui a pris du temps. On n'a jamais retrouvé qui a été vraiment l'auteur de ces meurtres. Et c'était vraiment passionnant d'arriver à avoir tout un travail historique retranscrit.
Non, mais pour Zodiac, c'est un peu spécial parce que Fincher était adolescent dans la région où avaient lieu les crimes du Zodiac à l'époque. Et c'est ce qu'il a voulu démontrer dans son film. C'est pas un film d'enquête parce que c'est vrai, le Zodiac on l'a jamais retrouvé. Quoique il y a une nana il y a 2 ans qui ait dit oui c'est mon père le Zodiac, j'ai retrouvé des lettres, nanana. Enfin bon, tout le bordel. Enfin bon, ça n'a pas abouti. C'est également un film sur la manipulation. Parce que le Zodiac, c'est quand même lui qui manipule l'ensemble de la population, et pas seulement les flics, mais également l'ensemble de la population, qui au bout d'un moment commence à flipper grave avec la menace de l'attentat du bus scolaire et tout ça, quoi.
Alors faut savoir,
dans tout, t'as une manip. Hein. Même le, c'est vrai que c'est un film mineur, mais qui est quand même très correct sur le travail de la mise en scène. Je pense à Panic Room, où il y a aussi la manipulation entre la personne qui est à l'intérieur de la panic room et les gangsters qui essayent de rentrer, je veux pas.
Après c'est vrai que c'est plus un exercice de style. Moi je dirais même que la manipulation vient de la maison elle-même et la construction architecturale de la maison plus que des personnages en eux-mêmes.
Après tu reprends, c'est une thématique que je trouve très récurrente. Bon, moins ce chez Benjamin Button parce que je trouve qu'au contraire
c'est un conte très classique
à l'américaine. Ça fait un petit peu film pour les Oscars.
Ouais.
Mais c'est Fincher qui est derrière et j'y mets quand même du crédit. Mais le dernier, je trouve, a tombé. Enfin, on va en reparler tout à l'heure. Et il y en a eu un autre entre-temps, je ne me souviens plus le titre.
Social Network, tout simplement, puisque c'est la description tout simplement d'un réseau tentaculaire aujourd'hui. Et le film parle de manipulation aussi, puisque le créateur qui est parti sur la création d'un petit site pour se venger de sa petite amie, c'est le film tel qu'il le présente, puisque on a vu après qu'il y a eu des discussions, c'était pas ce qui s'était passé dans les faits en réalité, mais il présente ça comme quelqu'un qui se venge juste de sa petite amie et qui crée malgré lui une espèce de monstruosité. Et que lui finalement il est manipulateur et manipulé contre son gré.
Je pense qu'il est pris dans son propre engrenage.
Voilà.
Mais en revanche, je trouve un intérêt très shakespearien dans celui-là. Et on retrouve qu'il arrive à rajouter quelque chose de culturel au fur et à mesure qu'il avance en faisant ses films.
Alors, Millennium, à la base, on en a parlé rapidement, c'est Stieg Larsson. Donc, Stieg Larsson était un journaliste qui était né en 54 et qui avait fait des essais sur l'économie, des reportages en Afrique. Il était rédacteur en chef d'Expo et il avait lutté aussi pas mal contre l'idéologie nazie. Et on parlait de monstruosité et de manipulation tout à l'heure, et c'est vrai que le film est aussi un film sur la monstruosité, puisqu'il va présenter une famille complètement à vomir, les Wenger qui ne plongeaient dans le glauque on va pas tout dévoiler, mais c'est vraiment à tout point de vue, il y a pas mal de monstres dans cette sacrée famille. On disait que Fincher avait débuté sa carrière, parce qu'il faut dire aussi que c'est un clipper à la base, avant de faire des longs métrages. Il va y revenir aussi au clip, mais voilà. C'est un réalisateur qui avait pas mal filmé le rapport au corps. Et c'est vrai que on est obligé, quand on parle de Millennium, de parler de ce putain de personnage qui est Elizabeth Salander, qui est un rapport au corps, puisque c'est une hackeuse de génie, mais qui a été sérieusement fracassée dans sa jeunesse et qui ressemble à une punk aujourd'hui. C'est vrai que cette monstruosité, tu retrouves dans la famille, tu retrouves dans ce personnage-là. Et c'est vrai que tu trouves qu'il y a quand même des ramifications. On va après parler plus directement de Millennium, mais dans la filmographie de Fincher, finalement, c'était à lui que revenait à cette adaptation. C'est tout à fait logique.
Ça semblait évident. Après, effectivement, le film en lui-même relève beaucoup du secret. C'est typique chez Scandinave où on se tait, on reste réservé et quand on ouvre la marmite, eh ben, on trouve des choses pas très catholiques, on va dire.
Ensuite, il y a une utilisation, évidemment, ça se passe en Suède, donc avec cet hiver froid et rugueux. On se croirait vraiment dans un hiver à la Insomnia, puisque Blomqvist, même s'il est lui-même suédois, il prend le train et on lui dit, il arrive pour commencer à accepter la commande du commanditaire de Wenger et qui lui dit, bon, ben, moi j'ai mon train à 4h30, je me barre. Et puis on lui présente une famille avec lui, machin est fâché avec lui, lui je lui parle plus parce qu'il a fait ça et tout. Et puis finalement il repart pas de suite. Tu dis, oh là 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 là, dans quoi il va commencer à s'embarquer. Et puis plus tu vois qu'il va commencer à enquêter, et puis tu te dis que c'est le décor aussi participe à ça, puisque c'est tout est enneigé. Il se gèle les burnes pendant toute la première moitié du film, le journaliste. Tu vois que c'est pas hospitalier du tout. Et c'est pas la chaleur humaine qu'il y a là-bas qui va le réchauffer non plus. Et c'est vrai que la construction du film aussi, quand tu vois, c'est un film où tu suis parallèlement, où ils vont se rencontrer, Lisbeth Salander d'un côté dans un décor très urbain, et Blomqvist perdu dans la pampa enneigée de son côté, et quand tu vois des allers-retours dans la ville, tu vois que c'est pas plus réconfortant non plus, parce que ce qui arrive à la nana, c'est vraiment pas très enviable. Donc tu as un aller-retour et tu te dis, tiens, je suis content de quitter ce lieu. Ah mais non, je vais le retourner là-bas. Non, je préfère la neige finalement. Voilà. Donc Millennium, évidemment, alors il faut pas le montrer à tous les yeux, puisque c'est interdit au moins de 12 ans. Vu la dose de nudité de violence affichée à l'écran, j'aurais interdit à plus, personnellement.
Ouais, facilement, plus 16.
Voilà.
Et vivement recommandé. Pardon.
Vas-y.
Non, vas-y. Parce
non,
que
non,
j'ai
après, j'enchaîne sur l'interprétation. Donc, Daniel Craig, moi j'ai cru. Moi j'ai pas vu James Bond du tout au début. Je trouve que mais justement il est aussi engagé pour son physique, hein. Blond aux yeux bleus, s'intègre très très bien.
Alors,
même
si
tous les Suédois ne sont pas comme
kilos,
ça, bien sûr.
Exprès pour le film, pour avoir un trait plus naturel que le bodybuilder qu'on retrouve.
Oui, voilà. Et c'est une masse, hein. Maintenant c'est une masse, mais plus musculeuse du tout à la Bond. C'est-à-dire qu'on le voit à un moment donné torse nu, et c'est le journaliste, c'est pas c'est pas l'athlète. Alors moi personnellement, je n'ai pas vu les précédentes adaptations suédoises de la saga de Stieg Larsson.
Et c'est pas en Suède quand on va le voir remonter la plage en slip de bain, quoi.
C'est pas faux.
Détrompe-toi, parce que l'été il fait quand même du 20 degrés.
Non, mais je plaisante.
Oui, bon. Mais il y a quand même quelques scènes hautes dedans où il passe pas mal de temps au lit, on va dire assez dévêtu.
Non. Alors, c'est marqué dans le film, c'est marqué dans le bouquin. C'est censé aller plus loin dans le bouquin que dans le film. Bon, ça reste un film américain, Fincher ne peut pas s'en empêcher. Et d'ailleurs, au départ, avant que le film suédois sorte, Fincher avait d'abord acheté les droits, commencer à préparer son film. Bon, il était pris par d'autres trucs qui fait que ça l'a retardé. Et même si je me souviens bien, avant qu'il commence à attaquer ce film là, on lui disait, tiens, achète tes droits. Mais quand il avait vu qu'il y aurait une histoire, il y a un viol on est obligé de montrer. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça a vraiment un intérêt pour l'histoire. Il avait dit, non, hors de question. Moi, ça va, ça suffit. C'est pas ma tasse de thé, quoi. Et quand on lui a redit, allez, vas-y, prends le bouquin, relis-le, essaye de voir que ça pouvait vraiment te coller à la peau, effectivement, là, il s'est mis à la tâche. Évidemment, entre-temps, les Suédois ont pris le devant, on dit, bah, écoute, Coco, puisque t'as pris ton temps, ben, nous, on a commencé. Les films suédois ont commencé à sortir, très bien. Et donc, Fincher a dit, on va laisser un petit peu de temps, et puis moi, je vais sortir ma version plus tard. Par rapport aux acteurs, c'était pas exactement le même casting qui devait être prévu au départ. Craig était pressenti, mais bon, à un moment il y avait par rapport au timing de Bond, c'était pas plus possible, donc on va dire non, ça sera pas lui. Puis au final, Bond a été décalé suite aux soucis financiers de sa boîte de prod, qu'on sait bien. Et donc Craig remet dessus. Mais par exemple, au lieu que ce soit Christopher Plummer, ça devait être Max von Sydow. Autre grand acteur suédois.
Oui, tout à fait.
Non.
Si.
Si. Non, il est danois, je crois, von Sydow.
Von Sydow, je crois qu'il est suédois, mais.
Il est suédois. Mm. Et d'ailleurs, pour avoir vu le film en VO sous-titré, moi, ce que j'avais peur, que ce soit l'accent trop américain prononcé, et non. Bon, Craig a quand même son accent british, peut pas s'en empêcher, mais tu retrouves quand même des petits accents.
Ouais, mais on est plutôt dans la veine, on va dire, sur l'accent et sur la diction, dans la veine de McTiernan. C'est-à-dire que McTiernan, quand il fait un film sur le 13e guerrier avec des Arabes, ben il dit avec des Vikings, pardon, il dit bon voilà, on présente
les Arabes, parce qu'effectivement t'as un mort qui joue dedans.
Voilà. Donc il y a 15 secondes à vous foutre de la langue étrangère, et puis à un moment donné, on s'en fout de façon comment ils parlent. Et voilà, et McTiernan il a toujours dit ça, il a dit allez, on les fait parler, on leur met pas des accents parce que de toute façon ça va être ridicule. Et puis voilà, et puis tu plonges plus facilement dans l'histoire.
Moi je trouve pas, mais bon, de toute façon ce film là où tu vois Banderas qui apprend le Viking en 2 minutes, ça suffit quoi.
Voilà. Alors moi personnellement, comment j'ai vécu le film, on va terminer là dessus puisqu'on va parler aussi de ton vécu à toi, comment t'as vécu le film aussi. Moi j'ai trouvé que l'enquête allait trop vite pour moi. Sur la fin où le tueur qui est démasqué, c'est vrai que c'est a posteriori que tu dis ah c'était ça, parce qu'à un moment donné tu vois des scènes où il y a Daniel Craig qui commence à comprendre l'identité du tueur et tu te dis c'est un tueur avec un grand T, mais tu te dis mais pourquoi il a ses lunettes, attends j'ai loupé un truc. Et c'est vrai que c'est pas un film qui va multiplier les ralentis ou multiplier les retours en images sur certains détails que tu aurais loupé. Il va continuer sa route et te dire ben tant pis, t'as loupé des trucs et tu vas les rattraper à la fin. Voilà, c'est un film qui va finalement assez vite compte tenu de sa durée. J'ai été agréablement surpris par ce film. JB,
de mon côté, je pense que j'aurais une petite préférence pour les Fincher. Je trouve ça assez étonnant. Parce qu'en général, les adaptations américaines par rapport aux originaux, vous savez ce que ça donne, hein, on en rigole à force. Et pour te contredire, parce que j'ai lu les bouquins et j'avais vu. Alors, moi j'ai vu le premier film et j'ai dû voir la suite en série télé, si je me souviens bien. Et
c'est la version suédoise.
Hein. La version suédoise, évidemment. C'est très fidèle au bouquin. Après, c'est vrai que ça passe à. De manière peut-être trop implicite, évidemment, sur certaines scènes, alors que c'est plus explicite dans le bouquin, mais bon, en même temps, c'est le bouquin est dense. Et
mais moi, je dis que c'est plutôt, s'il faut caricaturer, je dis que c'est plutôt un atout que le film aille trop vite. Moi, je préfère les films qui vont trop vite et que tu récupères ton retard en le revisionnant, plutôt que des films où toi, tu vas plus vite que le film et qui te balance un gros coup où tu t'emmerdes. Moi, je préfère les films rapides, c'est-à-dire Révélation avec Russell Crowe, c'est-à-dire un truc tu comprends pas tout au début parce que c'est un film enquête, un film à part l'autre, et après tu le revois et puis tu vois, ah oui d'accord, il avait mis un indice ou des trucs comme ça. Je préfère ça, moi. Donc c'était plutôt un point positif,
un côté beaucoup plus naturel au lieu qu'on t'explique tout. Voilà. À toi de rentrer quand tu rentres dans un groupe où il y a déjà une discussion qui est animée, mais à toi de essayer de comprendre au fur et à mesure quelle est la discussion, de quels sont les protagonistes, et de là tu rentres dans le fil, et tant pis si t'as loupé certaines parties, c'est fait exprès.
Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Film réalisé par David Fincher avec Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff, Robin White, Joey Richardson et Goran Wisnik.
Et il y a aussi alors il y a Michael Blomqvist, la version suédoise, il s'appelle Nyquist, l'interprète. Et en fait, ils sont aperçus qu'il y avait la fille de Nyquist qui était serveuse quelque part, et ils lui ont dit écoute, tu viens avec nous, on va t'écrire deux trois taglines et tu vas jouer, tu vas faire la répartie à Daniel Craig. Il y a plein de petites allusions, d'ailleurs les proverbes que tu trouves dans le film sont de vrais proverbes.
Oui, d'ailleurs l'actrice qui interprète le rôle suédois,
Noomi Rapace.
Noomi Rapace, elle était mariée avec un autre acteur suédois qui lui figure dans la série télévisée Wallander, mais la version anglaise. La version suédoise, pardon.
D'accord.
Hein, d'accord. Ok.
Il y a deux versions de Wallander.
Il y a la version de Kenneth Branagh aussi.
Ouais, mais je crois qu'elle n'était pas suédoise, celle-là.
Ah non, Kenneth Branagh, c'est une coproduction anglaise-suédoise.
Ouais, donc il n'y en a qu'une seule.
Ils sont allés tourner en Suède, bien sûr, mais c'est Kenneth Branagh, hein, de toute façon.
Ouais.
Quoi.
Et
il y a la version Wallander suédoise, donc les téléfilms suédois, donc, qui sont sortis. Le premier en 2005 et ça allait jusqu'en 2008 ou 2009. L'acteur principal qui jouait le rôle de Wallander est mort. Donc, franchement, on peut plus faire Wallander, quoi. Et puis, ils avaient déjà pratiquement tourné l'ensemble des différents romans de Henning Mankell, quoi. Donc, de toute façon, de ce côté, il n'y a pas de problème, quoi.
Chers auditeurs, vous pouvez nous appeler au 05 61 680 681.
Si vous
estimez que nous avons dit beaucoup de bêtises sur cette saga et que vous êtes méga fan de la saga de Stieg Larsson, vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire combien de pans de votre meuble Ikea vous avez réussi à monter en écoutant cette chronique.
Sur ce, on va bouffer un hot dog à Ikea.
Allez.
Ouais. Et puis pour parce que là, je suis sûr, nous mira pas, c'est tout, quoi. On la verra dans le Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Oui.
Nous mira pas.
Ouais, nous mira pas. Ouais. Ok. On la verra également dans le Prometheus de Ridley Scott, le Ridley Scott qui sort cette année.
En parlant d'Alien, toutes ces ramifications, ça
et...
fait peur.
Oui, oui. Mais attends, c'est pas fini. Et elle a en projet de tourner pour Brian De Palma.
Nyquist a joué dans le Mission Impossible 4 d'ailleurs, à un moment. Donc t'avais Noomi Rapace et Nyquist qui étaient concurrents à la version américaine.
Bref,
go.
Et alors oui, justement, nous allons annoncer le morceau que nous allons passer maintenant.
Non, même pas.
Non, allez.
Non, basta.
On le passe direct.
Ouais.
Alors sachez juste qu'il y a un lien avec Millennium qu'on vous expliquera après le morceau.
Ah bon? Mais c'est quoi cette musique de psychopathe?
Qu'est-ce que c'est que ça? Cette espèce de truc merdique surproduit?
Oui, c'est pas, c'est du Led Zepp?
Non!
Heureusement, non.
Allez, des annonces.
Allez, c'est du Train de Reznor et du Atticus Ross. Ceux qui ont fait la BO de Millennium qui vient de sortir, qui avaient déjà travaillé ensemble sur The Social Network. Donc, deuxième collaboration ensemble avec Fincher. Évidemment, Reznor est un habitué de travail avec Fincher. Souvenez-vous de
Fight Club.
Non, de Seven.
Allez. Mais oui.
Pardon.
Surtout Seven. Et donc, effectivement, ils ont pris le plaisir de reprendre le morceau de Led Zepp surproduit comme tu.
Ah non, ouais. Enfin bon, franchement, j'aime pas, quoi.
Ah ouais.
Non.
Oh,
moi j'aime bien.
Boulet, sort de ce corps.
Maintenant, tu peux lancer le jingle La Loi des Séries.
Ah bon, d'accord, ok.
Alors, il va lancer le logique de cinéma, tu vois.
Non, non, je l'ai viré. Ah merde.
Ciao, young fat. Non, je me prépare.
Oh, c'est du Galashka.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Ah, ça représente bien ce dont vous allez parler.
Ouais, pas trop quoi. Ouais, pas trop quoi. Bah, ça tombe bien que tu sois là parce que j'attaque avec l'événement de la semaine prochaine, bien
les
sûr.
Oscars.
Mais non, pas les Oscars, les Césars.
Ah.
Vendredi prochain, c'est sur Canal+, donc. Avec déjà un petit topo. Alors ils nous ont fait un petit topo là dans Télécable sur les films qui risquent de rafler tous les
alors on sait déjà que ce sera pas l'ordre et la morale hein, parce qu'il était question de sodomie la dernière fois qu'ils en ont pu se parler.
Non non, là il y en a 6 hein. Là ils ont dégagé 6 films donc alors
oh,
les
du noir et blanc tiens, c'était
tiens, non. Alors les deux gros. Je dirais il y a 3 gros et trois il y a 3 favoris, 3 outsiders hein, sur ces 6 films, il y a pas de problème. The Artist, Police et Intouchable.
Ouais.
Alors déjà, on va pouvoir se dire tiens, il y a du mieux parce que Intouchable est nommé alors que de par le passé, ça dégagé, il y a rien à voir. Hein.
Oui, puisque ça a été un succès
public. Hein,
voilà, hein, 18 millions de, un peu plus de 18 millions d'entrées, quoi. Bon, ok, hein, ils vont péter les scores, ça y a pas de problème. Police, ça a été le succès critique dès sa sortie au Festival de Cannes.
Oui.
Hein, c'est vraiment la grosse claque. Et après, sortie publique, ça a été également la grosse claque hein, pour pas mal de gens qui l'ont vu. Et bien entendu, l'international, parce que c'est même plus un film français maintenant, hein, The Artist. Déjà, c'est pas un titre français. Ok, bon, et en plus, bon, il parle pas français dedans.
Le réalisateur, il est français, hein. On peut voir sa carte d'identité.
Ouais, avec son nom, ouais. Enfin, bref, voilà, ça c'est les trois qui risquent de rafler le maximum de choses. Pas seulement meilleur film, enfin également les meilleures interprétations, second rôle et tout ça, voire des César techniques, hein. Il y en a pas autant que les Oscars, mais enfin, il y en a quand même quelques. Et après, ben, on a trois. Petit film entre guillemets qui pourrait être les outsiders et qui pourrait peut-être faire pencher la balance de l'autre côté, quoique ça m'étonnerait pas mal. L'exercice de l'État, tout d'abord, de Pierre Scheler, avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman. On a également La guerre est déclarée, hein, l'histoire de cette famille dont le fils a le cancer, enfin tout ça quoi. Donc ça c'est vraiment un truc très personnel, le film franco-français on va dire de Valérie Donzelli avec Jérémy El-Kaïm et Anne Leni. Et le film dont on avait parlé quand il a été projeté au Festival de Cannes l'année dernière, le film de Bertrand Bonello, La Polonie, la description dans une maison, la description de la vie onirique, enfin suggérée onirique dans une maison close dans les années 20-30. Donc pour les amateurs de chair fraîche. Bon voilà, ça c'est vendredi prochain donc avec Guillaume Canet comme MC. Bon ça ouais. Va, c'est pas mal, ça peut être sympa quoi. Et puis bon, les habituels remerciements qui font chier tout le monde et tout et qui plombent les cérémonies. Bref, tout ça c'est vendredi prochain à 21h, à partir de 21h en clair sur Canal+. Sinon au niveau des séries, bah il y a 3 nouvelles séries inédites qui démarrent cette semaine, qui sont des séries mineures, on va dire, hein, qui n'ont pas eu un super, qui n'ont pas été cartonnées sur des grosses chaînes, qui n'ont pas été achetées par des grosses chaînes, ou alors achetées par des grosses chaînes mais diffusées sur des réseaux satellites, on va dire. La première, c'est sur Sci-Fi. Alors Sci-Fi, bon, bah, j'en ai marre de vous dire pratiquement chaque semaine et tout quoi que cette chaîne pourra faire des trucs vachement bien, que il y a quand même un fonds de commerce dans la science-fiction, dans le fantastique et tout, qui est quand même assez important, et que il pourrait faire autre chose que nous balancer toujours les mêmes téléfilms pourris, voilà quoi. Alors ça peut être peut-être intéressant, hein, d'ailleurs.
Elle a pas beaucoup d'argent cette petite.
Oui, mais ça fait rien. Ça s'appelle Alphaz, au pluriel Alphaz, donc, et ce sera diffusé à partir de mardi prochain 20h45 avec David Stratham, Malik Yoba, Warren Christie. Alors c'est l'histoire de super-héros, enfin de mecs, de super-humains qui ont des super-pouvoirs, mais là qui vont être chapeautés par le gouvernement américain pour pouvoir résoudre des énigmes, des petits trucs comme ça, quoi. Bon, voilà, ça c'est le pitch de départ. Il paraît que c'est pas mal du tout.
Ils sont pas canadiens parce que la division Alpha.
Non, c'est pas Matrix. Non, c'est pas Matrix.
Non, alors non, division Alpha, c'est l'équipe de super-héros officiels au Canada,
oui.
Chez Marvel.
Oui. Oui, Alpha Force.
Alpha, ou Alpha Force après, mais au départ, c'est Division Alpha.
Oui, oui, oui. Non, ça n'a rien à voir, hein, de toute façon. Quoi. Donc, ça peut se voir. C'est à partir de mardi prochain, 20h45. Donc, deux, voire trois épisodes mardi prochain, deux épisodes. Et juste après, vous avez Starship Troopers 3. Donc, c'est une bonne soirée, on peut dire. Quoi. Il n'y a pas de problème.
Ouais, ouais, ouais.
Et si vous loupez la diffusion mardi, c'est rediffusé jeudi à 22h30. Autre série... complètement inédite, mais bon, on va dire mineure, hein, c'est une série qui s'appelle Past Life, qui sera diffusée sur NT1 à partir de mercredi prochain avec Kelly Giddish, Nicolas Bishop, Richard Schiff, Ravi Patel. Alors ça suit, alors c'est un petit peu une espèce de mélange de Cold Case, de X-Files si tu veux, parce que c'est également le couple d'enquêteurs, mais qui va enquêter sur des affaires qui se sont passées, des affaires qui viennent de l'au-delà un petit peu, parce qu'ils vont enquêter sur des histoires qui concernent des gens qui sont déjà morts, hein, donc on va, ça va encore plus loin que Cold Case. Ou bon ben dans Cold Case il y a pas de problème, il y a un élément nouveau qui fait qu'on peut rouvrir une enquête et tout qui a lieu 10 ans, 5 ans, 20 ans, même 50 ans après. Et là c'est un petit peu la même chose, un petit peu le même feeling sauf qu'il s'agit d'enquêteurs privés et que il y a plus de rapport avec le surnaturel que dans Cold Case qui est vraiment une émission policière. Hein. Donc Past Life c'est sur NT1 à partir de mercredi prochain à 20h45. Et on a également sur Orange Cinémax la deuxième saison inédite de How to Make It in America avec Victor Razouk, Lake Bell et Lake Bell et Brian Greenberg, l'histoire de deux mecs de l'Amérique qui viennent de l'Amérique profonde et tout et qui montent à New York pour se dire ok quoi, maintenant il faut qu'on gagne du pognon et tout quoi. How to Make It in America, hein, bien sûr, on part de la campagne, on arrive à la ville et puis on va se faire des couilles en or. Tout ça donc c'est sur Orange Cinémax, How to Make It in America à partir de je l'ai même pas marqué, tu vois. Donc je peux même pas vous le dire. Sinon il y a également la saison 2 de Glee qui démarre mercredi prochain à 20h50. Laissez tomber Marseille Inter Milan. Regardez la saison 2 de Glee avec dans le deuxième épisode Britney Spears en chair et en os.
Ouais. Moi, c'est tout vu, moi.
Ah bah, tu m'étonnes.
C'est qui ?
Ouais, c'est qui ? Des films à présent. Ce soir sur RTL9, toujours le traditionnel western du samedi soir. Et ça, c'est un très bon Veracruz de Robert Aldrich. Avec Gary Cooper, Burt Lancaster, Denise Darcel, Sarita Montiel et César Romero. Sinon, sur TCM, on a également l'excellent La Nuit de l'Iguane de John Huston avec Garner, Mitchum, Burton, Sue Lyon, Deborah Kerr. Et ce sera tout pour ce soir, hein, de toute façon. Quoi. Demain, sur NT1, c'est une spéciale Neige et Glace. Avec tout d'abord à 20h45, de Feuilles de Glace de Joyce Bunuel avec Laurie.
Mmh. Oh merde.
Ouais, qui joue le rôle d'une patineuse.
Ouais.
Christophe Malavoie et Nadia Fossier. Et après la patinoire, eh bien, c'est la neige à 22h25, toujours sur NT1 demain soir, Avalanche de York Ludhoff avec, alors le film est austro-allemand, on va dire, mais le casting est complètement européen avec Vincent Pérez, Désiré Nosbusch, Alanin Reibel et Mirko Lang. Mirko Lang, ça c'est. Le mastoc. Donc tout ça c'est sur NT1 demain soir à partir de 22h25 Avalanche. Demain également sur 13e rue Cortex de Nicolas Boukrieff avec Dussolier, Marc Keller et Julien Boisselier. C'est pas mal, c'est sympa. Ouais, quoi. C'est pas le meilleur Boukrieff, mais bon, c'est un bon truc sympa. Ou alors, toujours demain sur Orange Ciné Géant, spécial Elvis avec tout d'abord L'amour en 4ème vitesse de Georges Sidney en 64. Ouais, hein. Elvis, Anne-Margrette, pilote de course, voilà. Et le plus connu, enfin certainement l'un des plus connus, Jailhouse Rock à 22h05, le film de Richard Thorpe. Lundi sur France 3, 20h35, les 19e victoires de la musique classique. Et là au moins, c'est pas du bidon comme les victoires de la musique normale, quoi. Hein. Là, c'est du sérieux. Et pour une fois qu'on peut se taper pratiquement toute une soirée, plus de deux heures de musique classique avec des interprétations en direct, c'est en direct, ça vaut quand même le coup. Ça, c'est lundi, donc, sur France 3. Sinon, sur Arte qui nous fait une petite semaine Truffaut. Alors, avec tout d'abord, lundi, c'est spécial Douanel. Avec tout d'abord à 20h35 Domicile conjugal, ce qui est la quatrième histoire de Antoine Douanel alias Jean-Pierre Léo. Et là, ça y est, il est casé dans le domicile conjugal, en fait, quoi. Bon, je sais pas si tu connais les douanelles de
Truffaut.
Oui,
mais
et
il est toujours question de cocufiage.
Ouais. Mais au départ, dans les premiers, bon, il se cherche et il est jeune et tout ça. Bon, là, ça y est, il est marié et tout. Et puis, bon, bah, ok, il se rend compte qu'il s'emmerde, quoi. Bon, globalement, c'est un petit peu ça. Et c'est suivi. Alors, celui-là, il date de 70. C'est suivi d'un autre Truffaut à 22h15, toujours lundi sur Arte. L'amour en fuite. Et là, c'est là vraiment la dernière de Doinel. Là, il a divorcé avec Claude Jade, sa femme, dans dernier domicile conjugal. Et bon, bah ok, quoi. C'est plus ou moins le regard sur la vie passée. Bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Là, 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 tout le bordel et tout, quoi. Truffaut, comme d'habitude. Alors, bon, le casting. Non, mais bon, c'est pas dit péjorativement. Hein,
oui,
non, attention.
Mais...
Hein. Alors là, le casting dans le premier domicile conjugal, on a bon Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Daniel Secaldi. Dans L'amour en fuite, on a Marie-France Pisier, Dorothée, Dany, Rosy Vart, Claude Jade, que des gonzesses. Bah ouais, c'est normal, hein, Jean-Pierre Léaud, c'est un tombeur. Sur RTL9, lundi à 20h40, Kickboxer 2 d'Albert Pyun avec Sacha Mitchell. Ouais, et celui-là, il dépote à fond les manettes. Hein. Il est vraiment violent, hein, il n'y a pas de problème.
Quel est le rapport avec Truffaut, là?
Aucun. Mais par contre, on a Kari Hiroyuki Tagawa.
Ouais.
Ainsi que Dennis Chan pour faire le méchant. Hein, déjà, Dennis Chan, je crois qu'il est déjà dans le premier, me semble.
C'est
quoi.
Lui qui fait Tong Po
me semble, quoi.
Ouais, je
me
crois
semble.
Qu'il revient dans le 2.
Il revient justement dans le 2. Et au départ, Sacha Mitchell, il se fait démonter la gueule. Alors, il est
forcément.
Faut le voir au départ, quoi. Et là, il décide de travailler et tout, quoi. Et il aura sa revanche. Il y a également Peter Boyle, quoi, dans Kickboxer 2. Sur Énergie 12, lundi, spécial Dragon avec à 20h35, Eragon de Stephen Frankmeyer, Jeremy Irons, Robert Carlyle et John Malkovich en 2006. Suivi à 22h25 de Dragon Quest de Mark Atkins en 2009 avec Mark Singer, Jason Connery et Daniel Bonjour.
Ah, d'accord.
Et à minuit, un autre film Mark Atkins, Merlin et la guerre des dragons avec Simon Lloyd Roberts. Sinon, sur la chaîne Polar, lundi, un excellent polar, Adieu ma jolie, tiré du bouquin de Chandler, bien sûr, merci. Film de Dick Richards en 75, un des derniers grands rôles de Robert Mitchum, hein, dans le rôle de l'inspecteur, Charlotte Rampling, John Ireland, c'est un excellent polar, vraiment, quoi, c'est une excellente version de ce bouquin de Chandler. Mardi, on a sur 13e rue, Commandant de l'ombre, de S.J. Maunder, avec Marc Dacascos, Bruce Boxleitner et Armand Assante, ça va dépoter. Ou alors, plus classique, c'est sur Ciné Plus Classique d'ailleurs, John McCabe, l'excellent western de Altman, je crois qu'il l'avait sorti juste après MASH. Je crois qu'il n'y a pas de film entre MASH et John McCain.
Dans le Nouvel Hollywood d'ailleurs.
Et avec Warren Beatty, Julie Christie, René Aubergenois, William Devane. Eh oui. Et sinon, sur la chaîne Polar, mardi prochain, 21h, casse-tête chinois pour le judoka. Eh ouais, c'est vrai, quoi. Nous, on vient avec le judo et puis les autres, ils viennent avec leur coupe-chou, avec leur nunchaku et tout. Quoi, c'est pas du jeu, quoi. Faut pas déconner, quoi. Alors, c'est un film de Maurice Labro en 67. Maurice Labro, s'est spécialisé un petit peu de ce genre de film dans les années 60. Alors lui, il a commencé sa carrière très tôt, hein, il est en 1910, donc il commence sa carrière en 34, et de 34 à 42, il fait que des courts-métrages. Ensuite, il va faire du tout venant, on va dire, et c'est dans les années 60 qu'il commence à trouver ses marques, c'est-à-dire qu'on commence à lui confier que des films typés, on va dire, les films d'espionnage, les films de castagne.
Les sous-SS-117 de l'époque.
Voilà, avec en 62, Le Gorille a mordu l'archevêque. En 63, Blague dans un coin. En 64, Coplan. Tu le disais, Coplan prend des risques, et en 65, Corrida pour un espion, suivi de, bien sûr, de ce casse-tête chinois pour le judoka qu'on pourra voir donc mardi prochain à 21h sur la chaîne Polar.
J'adore
mercredi, sur Arte, Truffaut avec Jules et Jim à 20h35. Sinon, on a à 22h, après Jules et Jim, vous pouvez vous faire. Par exemple, sur RTL9, Mort subite de Peter Ryan.
Très bien.
JCVD.
Bonne thématique.
Hein, ouais, c'est une bonne thématique de soirée.
Qui est déjà passé la semaine dernière.
Mais, pour moi, le film de la semaine, de toute façon, c'est mercredi prochain sur Ciné Plus Star. Ne loupez pas ce film. C'est une tuerie, mais c'est carrément une tuerie. Certainement le meilleur rôle de Steve Martin, L'homme aux deux cerveaux de Carl Reiner avec Kathleen Turner, David Warner et tout, quoi. C'est un film absolument jubilatoire qu'il faut voir au moins une seule fois, mais ou plus, hein, de toute façon, quoi, parce que tu le à chaque fois que tu le revois, tu te pisses encore dessus de rire à chaque gag, quoi. Tellement c'est un film qui est incroyable, magnifique, excellent. C'est dans la veine de Mel Brooks, des petites choses comme ça, mais c'est poussé, c'est vraiment poussé à un point, quoi. Tu peux pas imaginer ça, quoi. Mais c'est vraiment un film, un grand film à voir, le film comique américain. Là, c'est un des grands classiques. Il date de 83, là ça vaut vraiment son pesant de cacahuète. Donc L'Homme aux deux cerveaux, c'est sur Ciné Plus Star mercredi prochain à 20h40 sur TCM, du classique avec Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, Bette Davis, John Crawford, Victor Bueno, ou alors sur FX La Nuit des Losers Vivants à 21h de Marcus Dinter avec Tino Meves, Manuel Cortez. Et ce sera tout pour mercredi. Jeudi sur France 3, une soirée spéciale Clint avec tout d'abord Impitoyable.
Ouais. Okay.
Et ensuite, histoire de rigoler un bon coup, La Relève.
Ouais.
Il
ouais.
Y a Retour vers le futur 2 aussi.
Ouais, mais je l'ai pas noté.
Ouais. C'est dommage parce qu'il y a Clint aussi.
Ouais, ouais, mais bon, ok.
Non, c'est un 3 qui.
Ouais.
De toute façon, c'est sa blague rituelle.
Sinon, ouais. Jeudi prochain sur RTL9, il y a également King Rising.
Oh non,
de Uwe Boll.
Jason.
Ou alors, eh bien, encore un autre Clint, toujours jeudi prochain sur Paris Première, mais c'est pas un film de lui, hein, c'est un film de John Sturges, Joe Kidd, avec Robert Duvall, John Saxon, Don Strode, quoi. Bref. Du couillu, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. On termine avec vendredi sur RTL9 à 22h20. On parlait de ce monsieur pas plus tard que la semaine dernière, ce réalisateur, Ching Siu Tung, qui nous a fait en 2008 Le Royaume des Guerriers, avec Donnie Yen, Kelly Chen, Leon Lai. Et ouais. Ça, c'est dans la case du deuxième partie de soirée du vendredi soir sur RTL9, bien sûr. Sur Ciné Plus Famille, là, il faut voir ce que ça donne, mais enfin bon, ça peut être rigolo 5 minutes. Spartatouille de Jason. Alors, c'est tellement nul déjà qu'ils se sont mis à deux pour le faire. Jason Friedberg et Aaron Selzer en 2008 avec Carmen Electra, Sean McGuire et Kevin Sorbo. En fait, vous avez un petit peu compris, c'est oui, une oui. parodie de 300.
Voilà. Hein, oui.
Donc,
mais le titre original était plus. Ah, aucun.
Mids 300, je crois.
Bah, c'est Mids.
Ouais, ouais, un truc
comme
ça.
Mids the Fokker, c'est mon voilà. beau-père et moi.
Mids 300.
Voilà. Et c'est suivi à 22h25 d'un autre film dans le même style qui s'appelle La légende de Super Plus Maximus. De Jeff Caneff, celui-là est récent, il date de 2010, avec Christina Loken et Rip Torn, quoi. Donc,
c'est
ouais,
Christina Loken, je regarderai
oui.
alors.
Bah ouais, ça vaut le coup, hein, peut-être, quoi. Sinon, vendredi prochain sur TCM, Chicago de Rob Marshall, ça c'est vraiment de la comédie musicale qui tue, hein, modernisée et tout, quoi. Je vous en ai parlé assez longuement il y a un certain temps, mais ça vaut vraiment le coup, hein. Si vous voulez rentrer dans la comédie musicale américaine, c'est un excellent film pour ça, hein, d'ailleurs, parce que musique moderne et tout, donc il y a pas trop de décalage au niveau musical, quoi. Donc on peut s'y retrouver. Sinon, vendredi prochain également sur Action à 21h, Le Pistolero de la Rivière Rouge de Richard Thorpe avec Glenn Ford, Angie Dickinson et Chad Everett. Et on termine avec le super couillu Bronson, qui est diffusé sur Orange Cinéchoc vendredi prochain à partir de 20h40. Et voilà, c'est tout pour cette sélection donc de films de la semaine. Et nous arrivons à la fin de cette
émission.
Voilà,
et nous attendons que tu mettes le jingle de fin de l'émission pendant que je meuble.
Ah ouais, d'accord, ok.
Donc d'ailleurs, JB, es-tu content de ton retour parmi nous ?
Ah oui, ça fait du bien.
Bon, mais très bien. Eh bien, tu reviendras, j'espère.
Oui, je vais réfléchir.
Bon, très bien. Alors, en plus, aujourd'hui, on a cru que tu avais préparé quelque chose, donc c'est super bien.
Oui.
Je te félicite d'ailleurs de t'être pointé à l'heure.
Ah, bah, parce que je suis arrivé à l'heure, ça. Ok. Donc, si je ne prépare rien mais que j'arrive à l'heure, ça marche aussi ?
Oula, ça devient compliqué. On va.
Ou est-ce qu'il faut que j'arrive à l'heure et que je prépare quelque chose ?
C'est mieux.
Ah, c'est mieux. Ouais.
Bon. Voilà. En tout cas, juste pour était en train de réfléchir. Bon, mais je vais commencer à faire le résumé de l'émission pour ceux qui ont pris ce programme en cours de route. Nous avions, la preuve que JB existe, puisque vous en avez entendu parler souvent dans le générique.
Je suis venu pas mal de fois.
Voilà. La preuve, il était avec nous. On a eu des anus et des cacas, du post-apo et des insectes, du blockbuster sur la lune, du reboot d'araignée, des machines de guerre bourrées, du montage IKEA, des remerciements qui font chier tout le monde. Britney Spears, Laurie, Dorothée et Rosie Vart, quand même. La musique classique, c'est pas du bidon. Et un archevêque mordu et des losers vivants.
Cool. On se retrouve la même heure,
même fréquence, même fréquence samedi prochain. Alors samedi prochain, il faut voir avec du sport. Peut-être qu'il n'y aura pas d'émission, peut-être pas. Ça reste le mystère entier. Au menu de la semaine prochaine dans 15 jours, eh ben on ne sait pas. Peut-être un film, sûrement de la BD. On verra.
Avec plein de séries télé et plein de bêtises à dire encore.
Ah, le générique arrive. C'est super. Bien, hein. Nous rappelons que vous êtes toujours sur Radio FMR 89.1 MHz. C'est la fin du supplément week-end. De suite, vous retrouvez Ça c'est du sport avec du sport et Guillaume. Voilà, pas de sushis cette semaine.
Non, on la retrouve la semaine prochaine avec un invité.
Ah, est-ce que tu peux déjà nous dévoiler son identité ou pas?
Je me rappelle pas son nom. Alors,
d'accord. C'est quel sport?
C'est six-foot.
D'accord.
Football pratiqué par les aveugles.
Très bien.
C'est une bonne idée ça.
Alors, fais-nous saliver de quoi vous allez parler pendant Ça c'est du sport là maintenant.
Le tout venant classique, hein, à savoir le championnat de foot.
Alors avec ce choc PSG Montpellier, votre pronostic les gars?
Attends, il faut que je t'ouvre le micro quand même.
Vas-y Guillaume,
vas-y.
Ça va être un choc qui va sûrement être très très important pour les Parisiens et les Montpellierains. Hein. Je pense une victoire parisienne. Hein. Je pense que les hommes de Carlo Ancelotti ont à cœur de réussir ce choc.
Je pense aussi, malgré l'optimisme ambiant sur les chances de Montpellier, faut quand même arrêter de se voiler la face. Je pense que PSG a des chances de l'emporter.
Bon bah,
et
Thomas,
d'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine ou la prochaine fois pour faire un débriefing de nos pronostics, savoir s'ils ont été pourris ou très très bien inspirés.
Oui, bon bah Thomas, tu vas rester faire l'émission avec nous. Hein.
Je crois que JB va s'emmerder là.
Ah ouais, mais royal.
Oh, bah, tu peux aller préparer du café si tu veux.
Non, je vais me coucher. Bonne semaine à tous.